VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Il est 13h temps universel, bonsoir, bienvenue. Le calme régnait aujourd'hui à Bujumbura. La contestation contre le président Pierre Nkurunziza s'étant résignée à sa victoire, mais la colère et la frustration couvrent et ne demandent qu'à exploser, signale l'agence France Presse. Camille Gros-Didier.
Le président Nkurunziza, dont la candidature à un troisième mandat, inconstitutionnel selon ses adversaires, a plongé son pays dans une grave crise émaillé de violences meurtrières. Il semble assuré néanmoins de remporter dès le premier tour la présidentielle de mardi dernier, boycottée par l'opposition. À la mi-mai, une tentative de coup d'état militaire avait suscité quelques heures d'espoir au sein de l'opposition avant d'être déjouée. Le plus dur commence pour Nkurunziza car le contexte burundais est pré-conflictuel, a estimé Thierry Vircoulon de l'International Crisis Group qui est cité par l'AFP. Il y a une hausse de la violence armée, les défections se multiplient et montrent que le pouvoir est contesté de l'intérieur même. Les Burundais continuent à avoir peur et à quitter leur pays par anticipation d'un conflit. L'économie est en berne et la production agricole risque de baisser, a remarqué Thierry Vircoulon.
Et dans un rapport publié aujourd'hui, Amnesty International accuse les autorités burundaises d'avoir réprimé les protestations politiques de cette année comme si elles étaient l'équivalent d'une insurrection et fait usage de la force armée contre les manifestants anti-gouvernementaux. Des dizaines de protestataires ont été tués pendant les violences. Amnesty critique également la fermeture des médias par les autorités après la tentative de coup d'état contre le président Pierre Nkurunziza. Au Cameroun, le président Paul Biya appelle la population à la vigilance après le double attentat suicide d'hier à Maroua, capitale de l'extrême nord du pays, qui a fait au moins 13 morts et 32 blessés. Des attaques qui seraient l'œuvre de deux jeunes femmes kamikazes. La réaction du maire du premier arrondissement de Maroua, Amidou Amadou.
Vous savez, c'est la première fois que une attaque de telle envergure, n'est-ce pas, a lieu au cœur de la ville de Maroua. J'avoue très sincèrement que la population elle est complètement désemparée, elle est complètement déboussolée. C'est vrai qu'elle était très courageuse, surtout avec les mesures prises par les pouvoirs publics, le renforcement de sécurité depuis la veille de la fête jusqu'à ce jour. Donc la population avait confiance à tous ces dispositifs de sécurité qui étaient mis en place. Mais avec ce qui se passe, je crois que c'est quelque chose de très, très, très douloureux. Mais j'ai confiance en ma population. C'est une population très courageuse, très dynamique. Donc, nous allons rester debout.
Amidou Amadou, maire du premier arrondissement de Maroua au Cameroun. États-Unis, le président Barack Obama s'envole tard aujourd'hui pour une nouvelle tournée africaine qui le conduira demain au Kenya, le pays natal de son père, puis en Éthiopie. Nicolas Pinault.
Oui, ce voyage est d'abord placé sous le signe de l'économie puisque Barack Obama participera à Nairobi à un sommet mondial de l'entrepreneuriat. Le Global Entrepreneurship Summit est une initiative lancée en 2010 et qui rassemblera des milliers d'entrepreneurs et d'entreprises. Barack Obama rencontrera évidemment son homologue kényan Uhuru Kenyatta. Les deux présidents auront à discuter de commerce et de sécurité avec la lutte contre les djihadistes d'Al-Shabaab, responsables notamment du massacre de Garissa. Même priorité lorsque le président américain rencontrera les dirigeants éthiopiens. L'Éthiopie est aussi en pointe dans le combat au sein de la mission africaine en Somalie. À Addis Abeba, Barack Obama devrait évoquer le déficit démocratique africain devant les dirigeants de l'Union africaine.
14h04 minutes à Brazzaville.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Congo, Brazzaville, le dialogue alternatif pour traiter des questions électorales commence demain. Le collectif des partis de l'opposition à l'origine de ces assises estime que le dialogue récemment organisé par le gouvernement à Sibiti s'est focalisé uniquement sur la question du changement de la constitution afin de permettre au président Denis Sassou Nguesso d'obtenir un troisième mandat. Le point avec notre correspondant à Brazzaville, Nguela Ngusu.
Ce dialogue alternatif souffle vendredi à Brazzaville. Quels en sont les objectifs ? Mathias Nzon, l'un des leaders de l'opposition.
Là-bas, on s'est proposé de faire mettre en avant les intérêts personnels d'un homme. Or, nous voulons mettre en avant les intérêts de tout notre peuple. L'intérêt de notre peuple, c'est d'aller vers la concorde, vers la fraternité et vers de vraies élections pour désigner enfin dans notre pays un vrai président qui sera réellement élu. Mais nous entendons ce que nous avons dit tous les démocrates, les républicains qui sont désireux de venir échanger avec nous sur ces vraies questions-là. Les élections dans notre pays, parce que nous ne voulons plus que les élections deviennent, soit et demeurent toujours une source de querelle dans notre pays. Que ça aille de soi, regardez en Europe, c'est une honte pour nous qu'à chaque élection, nous devons nous quereller. Nous ne voulons plus ça. Le moment n'est plus à la décision sur les institutions. Le pouvoir qui viendra posera ce problème-là. Parce qu'il nous reste seulement 12 mois, on n'a plus le temps.
Pour les membres de l'opposition, il s'agit là d'une réponse au dialogue national qui a eu lieu du 13 au 17 juillet à Sibiti. Clément Mirassa qualifie d'ailleurs de recul le forum de Sibiti.
Quand vous lisez ce rapport sur la réforme des institutions, on dit que l'article 3 et l'article 86 permettent au président de saisir les deux présidents des deux chambres pour appeler à un référendum qui permette de changer la constitution. C'est faux! Et on ne peut pas permettre au président Sassou de continuer à tromper les Congolais, à tricher et à ne pas respecter les lois et les règlements de la République.
Pour Jean Itadi, le président du CAP, l'un des partis organisateurs de ce dialogue, une seule priorité compte pour le Congo aujourd'hui.
Ayant parlé à ses alliés à Evo, à Luzi, à Brazzaville, le PCT et le pouvoir, et parlé à lui-même à Sibiti. Si les choses avaient évolué, on n'aurait pas repris dans les recommandations et le communiqué final les mêmes choses qui avaient été dites et non appliquées après Evo, Doulizi et Brazzaville. Ça veut dire qu'il y a des priorités, et la vraie priorité est la seule, c'est créer les conditions de l'organisation d'une élection juste, libre et transparente en 2016.
À 24 heures de ces assises, les interrogations demeurent sur le lieu et la durée de ces dialogues alternatifs. Gwelangoussou, Brazzaville, La Voix de l'Amérique.
République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila s'est entretenu à Kinshasa avec Kenneth Roff, le directeur exécutif de Human Rights Watch. Ce dernier a plaidé en faveur de la libération de Fred Bomba et Yves Makwambala, les deux militants congolais arrêtés le 15 mars dernier pour avoir participé à une rencontre avec des activistes sénégalais de Yanamar et des Burkinabés du Balai citoyen. Le ministre français de la Défense, Yves Le Drian, en visite en République centrafricaine, à son programme des consultations avec la présidente de la transition, Catherine Samba-Panza, et des contacts directs avec les troupes françaises sur place. Il est 14h07 à Bangui.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
La Maison-Blanche a fait savoir hier qu'elle met la dernière main à son projet de fermeture de la prison controversée de Guantanamo, c'est à Cuba. Le porte-parole de la Maison-Blanche, George Ernest, a déclaré que la présidence espère court-circuiter l'opposition à ce sujet au Congrès. Barack Obama, qui s'était engagé à son arrivée au pouvoir en 2009, a fermé au plus vite ce centre de détention militaire, n'a pas réussi à faire aboutir ce projet en raison de difficultés juridiques soulevées par le Congrès. À ce jour, 116 personnes s'y trouvent encore. L'administration Obama intensifie ses efforts pour convaincre les partenaires sceptiques au Congrès de Washington de la validité de l'accord sur le nucléaire iranien conclu récemment à Vienne en Autriche. Le secrétaire d'État John Kerry et ses collègues au département de l'énergie et du trésor, Ernest Moniz et Jack Lew, vont comparaître aujourd'hui devant la commission des affaires étrangères du Sénat américain, cela pour défendre le traité limitant les ambitions nucléaires de l'Iran en échange de la levée des sanctions internationales contre Téhéran. Le secrétaire américain à la Défense est maintenant à Bagdad pour une visite surprise en Irak, quatrième étape de sa tournée au Proche et au Moyen-Orient qu'il a conduit auparavant, notamment en Israël et en Jordanie. Après ses consultations hier avec les leaders saoudiens à Jeddah, en Arabie Saoudite, Ash Carter s'est dit convaincu que Riyad approuve l'accord sur le nucléaire iranien négocié à Vienne, en Autriche, par l'Iran et les six grandes puissances, dont les États-Unis. Et puis, le directeur du FBI, la police fédérale américaine, estime que les efforts de recrutement d'Américains sur Internet par le groupe État islamique représentent un plus grave danger pour les États-Unis que les activités d'Al-Qaïda. James Comey précise que l'État islamique a probablement des centaines ou peut-être même des milliers de fans américains sur ses comptes Twitter. Il ajoute que le FBI a ouvert des centaines d'enquêtes sur des Américains attirés par l'État islamique. Jean-Roger Billon à ce micro. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous dans 50 minutes sur la même station. Merci de nous avoir choisis.
Soyez au cœur de l'info.